www.libradio.org. La station debout.
Les peuples autochtones sont justement ces ensembles de populations qui résultent d'une certaine manière de la colonisation. C'est par ce biais, ce prisme-là de la colonisation que l'on comprend qu'il y a des sociétés qui présentent une forme d'altérité dans les sociétés ou dans les États en particulier. Donc les peuples autochtones, je pourrais dire, on ne naît pas peuple autochtone, on le devient par le fait de la domination qui va venir s'inscrire par un processus social, politique et juridique sur un territoire en particulier et un groupe en particulier. Et les peuples autochtones sont nés d'une certaine manière d'un mouvement de révolte de la situation d'extrême discrimination et marginalisation subie dans les États dans lesquels ils sont, qui a conduit un certain nombre de représentants à venir à Genève pour réclamer, disons, des droits, le simple droit humain qui leur était dénié, parce que dans les pays qui ont procédé à ces phénomènes de discrimination, marginalisation, racialisation et parfois extermination et génocide, il y avait vraiment déni de les considérer comme des êtres humains. Donc on a beaucoup de connaissances sur le fait qu'on ne les nommait pas dans la langue par laquelle ils se nommaient eux-mêmes. On les a dit barbares, on les a dit sauvages, on les a dit ignorants, on les a dit incapables, on les a dit de toutes sortes de manières. Donc, c'est pas simplement par le dire que l'on procède à la discrimination, c'est aussi par le faire. Mais quand on dit et quand on dénie à quelqu'un la compétence, la qualité d'être humain, alors ceux qui veulent s'approprier des terres vont les tuer facilement. Voyez, il y a par exemple un exemple. Je vais bientôt avoir un chapitre d'un livre qui va sortir sur les questions de génocide, ethnocide et écocide, et où la chasse à l'homme a été pratiquée en Colombie jusque dans les années 90, la chasse à l'Indien plus exactement, et où un prévenu, disant qu'à un moment donné a été quand même accusé d'avoir tué des Indiens, disait « mais je ne savais pas que c'était illégal ». Vous voyez, ouais. Donc quelque chose comme cela rend puissant cette nécessité de reconnaître pleinement les autochtones. Donc face à ces phénomènes-là qui sont connus depuis très longtemps et que relate un petit peu à la fois le livre « Peuple autochtone dans le monde, les enjeux de la reconnaissance », mais également tout un chapitre sur la manière dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été élaborée et finalement adoptée. Dans le livre « Les droits des peuples autochtones des Nations Unies aux sociétés locales » que j'ai écrit avec Leslie Clou et Laurent Lacroix, publié en 2017, on montre comment les Nations Unies ont été... Il y a différentes étapes, si vous voulez, il y a eu plusieurs réunions, puis les Nations Unies ont été se sont vraiment saisies de la problématique. Après qu'en 1972, un professeur de sociologie équatorien, le professeur José Martínez Cobo, a été saisi par le Conseil économique et social d'une étude sur la discrimination à l'encontre des populations autochtones. Donc il va faire un questionnaire, il y aura 35 pays à l'époque qui vont répondre et qui vont permettre de définir un petit peu ce que sont les populations autochtones. Et donc il y a 5 volumes et il y a des 5 volumes qui ont été publiés entre 72 et 85. Il y a eu une petite définition de travail qui a été élaborée pour signaler que les peuples autochtones, enfin plutôt que les populations autochtones, puisque c'était le mandat de son étude, sont les peuples ou nations qui, je vous cite ça de mémoire, donc c'est pas absolument exact, qui occupaient un territoire avant que le territoire ne soit occupé, enfin, qui habitaient un territoire avant qu'il ne soit occupé totalement ou partiellement par des populations autres, et qui sont déterminés à préserver leur langue, leur culture et leurs institutions et les transmettre aux générations futures. Donc ça, c'est une définition de travail qui permet de comprendre qu'il y a à la fois une antériorité d'occupation d'un site, notamment un territoire, et qu'il y a un rapport particulier à un territoire. Donc à partir de là, on peut élaborer beaucoup de choses, mais ce qui était important là, surtout, c'est que l'on passe de la notion de population à la notion de peuple. Et la notion de peuple est importante parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir accorder une personnalité juridique à un ensemble, disons, collectif qui était jusqu'à présent considéré, comme je l'ai dit précédemment, comme étant sans règles, sans foi, sans loi, sans nom, sans, vous voyez, tout ce genre de choses. C'était le mépris, disons, qui procédait finalement à l'encontre de ces populations-là. Et à travers le mouvement, disons, des peuples autochtones, donc et puis les années de négociations dans les groupes de travail de Genève, que l'on a fini par élaborer cette déclaration des Nations Unies, dont les 46 articles, enfin notamment les 41 articles, parce que les trois derniers correspondent à la mise en œuvre de la déclaration et à la responsabilité des États dans l'application de la déclaration, montre un petit peu quelle est la nature de la violence et du déni de droit qui a été exercé à l'encontre des peuples autochtones. Et du coup, le terme autochtone est sorti en français par la vertu de la participation des autochtones francophones, notamment dans le Québec, mais aussi de Nouvelle-Calédonie, des Kanaks, mais aussi de Guyane. Il y a 6 peuples autochtones en Guyane. Et d'Afrique, il y a tout un ensemble de populations autochtones francophones qui refusaient le terme indigène, qui était employé en espagnol, on peut dire très facilement población, ou bien pueblo, ou bien nacionalidad, indígena. En anglais également, on peut dire indigenous peoples. Et là, le S vient faire la différence entre people, qui est un ensemble de personnes composant une population, et people, c'est qui est un peuple, c'est-à-dire un tout organisé. Ouais. Et donc, c'est les francophones participants de la négociation ont réfuté le terme indigène pour traduire ce processus en cours et ce qui leur correspondrait à cause de la colonisation française qui, dans les États qui ont été colonisés, qui ont donné lieu, disons, à l'indépendance. On parlera donc de l'Algérie, du Mali, dans toute l'Afrique francophone, le Vietnam, la Cochinchine, etc., toute l'Asie francophone colonisée, avait donné lieu dans la législation française à quelque chose qu'on appelle le statut de l'indigénat. Et le statut de l'indigénat est organisé à l'époque donc de la colonisation des droits différents pour les indigènes, c'est-à-dire les locaux, et les colonisateurs, donc qui avaient la plénitude de leurs droits, notamment civils et politiques, tandis que les locaux indigènes ne les avaient pas. Et lorsque l'indépendance s'est produite, des nouveaux États indépendants ont été créés, avec des nationalités correspondant à celles de l'État, donc on dira algérien, marocain, tunisienne, malienne, sénégalaise, etc., mais qui ont laissé de côté des populations qui n'ont pas été considérées dans la plénitude, disons, de leurs différences, qui ne sont pas tous les indigènes d'un ensemble étatique devenu indépendant, mais ceux qui occupent des espaces particuliers, par exemple chasseurs, pêcheurs, collecteurs, beaucoup plus qu'agriculteurs. Agriculteurs, les peuples autochtones peuvent être aussi des peuples agriculteurs. Mais ensuite, dans les différentes régions du monde, c'est pour ça que j'ai travaillé à l'échelle globale, j'ai essayé de comprendre quelles étaient les différentes déclinaisons et sens possibles de peuples autochtones dans les différentes parties du monde qui ont été l'objet de colonisations différentes, avec des langues différentes et avec des processus juridiques et constitutionnels distincts. Voilà. J'espère être assez clair. Oui. C'est compliqué, bien sûr, parce qu'on travaille à l'échelle du globe, oui, et que l'on est passé dans les années 72, 35 pays se sentaient concernés aux Nations Unies par la question autochtone. Ça veut dire que quelque part, déjà, ils identifiaient cette altérité-là, cette différence-là. Et maintenant, nous sommes à 90 pays. Mmh. Et donc, on est passé de 35 à 90 pays. parce que des populations autochtones, donc cherchant à la reconnaissance comme peuple autochtone, se sont affirmés à travers le mouvement autochtone international. Sont allés aux Nations Unies, ont été déclarés leurs problématiques de spoliation territoriale, d'interdiction linguistique, de violence à l'égard des femmes et des enfants, qui étaient, disons, l'objet de viols et de rafts de la part des colons, par exemple. Voilà. Et donc, les colonisateurs ont d'abord été agricoles, maintenant ils sont pétroliers, miniers, etc., etc., quoi. Donc du coup, à travers dans le globe maintenant, vous l'avez signalé au départ, les peuples autochtones sont présents sur tous les continents et ils occupent de facto la totalité des écosystèmes existants. Mmh. Tout ce que l'on connaît comme type d'écosystème, donc vous avez des peuples arctiques qui étaient extrêmement connaisseurs de la neige et de la glace, je dis « étaient » parce que avec le réchauffement climatique, un certain nombre de propriétés disons de la glace ont disparu avec la glace elle-même. Ouais. Mais bon, donc les Inuits, par exemple, sont les grands peuples qui autrefois étaient appelés Esquimaux. Et ces termes-là, d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, au moment où se fait l'affirmation comme peuple autochtone, il y a aussi le fait que ils ont leur propre désignation, ces groupes-là. C'est ouais. comme si on appelait systématiquement un de ces états dominants du globe par un mot péjoratif, par un terme péjoratif. Mmh. Donc, Eskimo signifiait juste mangeur de viande crue et c'était donné par les explorateurs qui les ont rencontrés une première fois, quoi. De même que Lapon était le nom donné à ceux que l'on dénomme, qui se dénomment aujourd'hui Saami et qui signifiait Lapon porteur de hard en anglais, lap. Mmh. Vous voyez, les Mairuna, qui veut dire être humain, ont été dénommés par les colons environnants, les métis, qu'on appelle c'est là, au Pérou, la catégorie métis désigne les populations non amérindiennes qui se sont installées dans l'Amazonie. Donc les métis, les appelaient orejones, parce qu'ils portaient des ornements d'oreilles importants qui les transformaient par des processus rituels importants qui transformaient les hommes en êtres spirituel le plus important de leur cosmologie, c'est-à-dire la lune, Maineno, le faiseur d'hommes. Et donc, comme ils portaient ces ornements d'oreilles, ça faisait des grandes oreilles, donc on les disait orejón, qui veut dire grande oreille en espagnol. Mais aussi, on les a appelés coto, du nom vernaculaire du singe hurleur, parce que le singe hurleur a un poil fauve et que eux-mêmes se peignaient le corps au roucou, en rouge. Et donc, vivant nus, ils avaient le corps peint en rouge, qui était une excellente protection contre les piqûres de moustiques en particulier. Mmh. Et donc, ce processus de reprendre les identités propres s'est également affirmé à travers ce mouvement qui commence dans les années 70 et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils sont dans tous les écosystèmes, donc les Inuits dans l'Arctique, un ensemble de peuples amérindiens, et donc le terme amérindien est plus ou moins accepté, le terme indien est décrié en Amérique, parce que évidemment il est le fruit de l'erreur de Christophe Colomb, cherchant les Indes et trouvant l'Amérique. Et donc il y a beaucoup de termes qui ont été longtemps employés à l'égard de ces populations, comme cholo ou natif, nativo, enfin qui sont des termes peu à peu réfuté pour dire maintenant población o pueblo indígena ou una persona indígena, pareil dans l'Amérique du Nord, sauf aux États-Unis où le terme native reste employé pour désigner des tribus, native tribes, voyez, native American, on va dire, pour désigner les Navajo, les Sioux, les Lakota, les Dene, qui sont des termes génériques. Chacun de ces termes recouvrant le nom de population, de communauté et de société, parlant des variantes linguistiques distinctes et ayant des noms propres dans leur propre langue, ouais. que l'on devrait maintenant commencer à reconnaître, à admettre et voilà.
Voilà.
Donc, il y en a dans tous les espaces, donc la forêt tropicale, les forêts tropicales ont des peuples autochtones en grand nombre. Le désert, les peuples du désert sont des peuples autochtones. Et donc, dans l'ensemble du monde, on a du mal à les dénombrer parce que tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de dénombrer les peuples autochtones. Donc, il n'y a pas de recensement à l'échelle du globe. Les Mexicains vont le dénombrer par la langue. Si vous ne parlez pas la langue, donc vous n'êtes plus autochtone, vous perdez la condition d'autochtonie. Si vous, en revanche, vous pouvez parler la langue, mais être le fils d'un non-autochtone et d'une autochtone et vivre dans une réserve au Canada, mais vous perdiez la condition autochtone parce qu'il y avait mariage avec un non-autochtone. Vous voyez, les processus juridiques viennent à imprimer leurs effets, donc post-coloniaux, sur les manières actuelles de dénommer et de connaître ces personnes. Bon, mais pour faire un peu court, parce que tout ça est très compliqué, on peut dire qu'il y a à peu près près de 7000 langues distinctes dans le monde, dont les autochtones représenteraient l'immense majorité. Donc on peut considérer à peu près à 6000 langues, et peuples autochtones dans le monde. Donc vous voyez un petit peu la complication de cette affaire.
Et puis c'est son intérêt également, c'est cette multiplicité, ces singularités, cette diversité des situations.
Ouais. Bien sûr.
Alors dites-moi, on le voit bien, le chemin de l'autodétermination est ouvert, mais où en est-on? Est-ce qu'il reste du travail décolonial à mettre en place? Je pense notamment à des instances, parce que là on parle d'une déclaration effectivement à l'ONU, mais y a-t-il des instances qui devraient surgir dans chacun des pays? Parce que on le sait bien, il peut y avoir des déclarations qui sont faites et auxquelles on adhère, mais sont-elles ratifiées? Et ensuite, eh bien, qu'en est-il de leur mise en œuvre? Et puis, à l'aune de ce que je viens de dire là, j'aurais bien voulu avoir votre regard par rapport, voilà, à deux exemples. Comment est-ce que vous observez la situation, par exemple, du peuple sahraoui et également des zapatistes au Chiapas, au Mexique?
Alors, l'autodétermination, c'est un sujet extrêmement compliqué, extrêmement délicat, difficile à débattre, discuter sereinement, et qui a émergé, disons, dans le droit international, avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la déclaration Woodrow Wilson, la Société des Nations, 1917. C'est l'autodétermination d'une certaine manière qui a prévalu également dans les processus de décolonisation qui ont, connu des succès différents dans les années 50 à 60. Vous voyez, il y a eu aussi la déclaration des Nations Unies sur la décolonisation. Voilà. Tout ceci s'organise et va donner lieu à des États indépendants qui vont construire leur propre, espace étatique. Et ces États indépendants, se sont déterminés sur la base de certaines frontières territoriales, qui certaines en partie héritées de la colonisation, d'autres réélaborées par des processus extrêmement complexes, vraiment complexes et toujours très sensibles. Le cas sahraoui est un exemple particulier de cette situation-là. Donc, les peuples autochtones revendiquent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en tant qu'ils sont des peuples. En tant que, il n'y a pas de définition non plus de peuple au niveau international, et le peuple, c'est un tout organisé. Donc, leur reconnaissance en tant que peuple signifie qu'ils ont non seulement des droits individuels de la personne, ils jouissent des droits individuels de la personne qui sont, attribués à toutes les personnes du monde, tous les individus, n'importe quel individu dans le monde est porteur de droits. Les hommes naissent libres et égaux en droit, etc. L'un des problèmes qui était propre aux autochtones était que cette déclaration des droits individuels, ou même le respect des droits individuels, ne leur était pas appliqué. On pouvait les esclavagiser, les déporter, les massacrer, les enfermer, les tuer, enfin voilà, toutes sortes de choses comme ça qui fait qu'il y avait un total irrespect des droits. Mais ils avaient un point supplémentaire en tant que peuple. Ils ont besoin, ils ont la nécessité de droits collectifs. Donc les droits collectifs, ça a énormément posé problème aux États, mais en quelque sorte, ils appartiennent au peuple des États. parce que quand vous êtes suisse ou français, vous êtes protégé par un appareil étatique qui, à un moment donné, va déterminer des ensembles qui vont qualifier et vous permettre de vous défendre par rapport à des situations d'agression ou autres. Les autochtones n'avaient rien de cela puisqu'ils étaient eux-mêmes marginalisés par les États. Or, ils en ont besoin de droits collectifs sur le territoire. Par exemple, les autochtones ne connaissent pas la propriété privée inscrite avec un titre de propriété déposé chez un notaire et qui peut faire l'objet d'un acte marchand dans une occasion ou dans une autre. Les droits collectifs sur le territoire sont extrêmement importants et il n'y a pas seulement les droits à la langue, sont également des droits collectifs. Donc, le parler suisse ou le parler français, la langue française est évidemment une identité collective à travers la langue française ou à travers la qualité de cette langue-là. On voit bien qu'on a affaire à quelque chose de collectif. S'il n'y a plus qu'un seul individu qui parle la langue, il n'y a plus de langue. Elle perd, elle meurt, et quand la personne meurt, c'est fini. Donc on voit bien la nature collective. Les droits syndicaux sont également des droits collectifs. Mais rien de cela n'était applicable aux autochtones. Donc pour pouvoir avoir leur langue reconnue également, ils ont besoin d'être reconnus en tant que porteurs de langues distinctes. Et le respect de la langue est quelque chose de très important que l'État ne protégeait pas. Donc, voyez, donc ça c'est très important. Et donc lorsqu'ils ont passé, ils ont obtenu finalement par l'article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et les peuples autochtones ont le droit de disposer d'eux-mêmes, ont le droit à déterminer eux-mêmes de leur destin, de leur stratégie de développement, et à disposer, disons, de leur moyens de subsistance et de développement. Je cite de mémoire, vous pourrez vérifier tout cela dans la déclaration, mais cet article 3 est extrêmement important parce qu'il reconnaît la personnalité juridique. Donc le collectif autochtone émerge à ce moment-là, d'accord ? Oui. Mais ce collectif autochtone, avec différentes variations de communautés, de gens plus ou moins dispersés, de gens qui ont vécu des histoires très traumatisantes et très traumatiques, de déportation, n'entendent pas nécessairement construire un État. Pour eux, la forme État n'est pas nécessairement quelque chose qui leur permet de réaliser leur devenir. Et d'ailleurs, la forme État dans l'histoire occupe une place relativement courte. Hein.
Oui.
Disons, les États sont construits du 18e, 20e siècle. En gros. Après, on a autre chose qui a été les cités, qui était importante, les cités commerçantes, par exemple, toute l'Italie. Et puis, il y a maintenant les autres formes qui sont dominantes, qui sont les grandes multinationales, qui ont des pouvoirs largement supérieurs à ceux des États et souvent des moyens financiers supérieurs à des PIB de beaucoup d'États. Donc, voilà. Donc, dans cette configuration-là, mais les États sont aujourd'hui les piliers des Nations Unies, ce sont les États membres des Nations Unies, ce sont eux qui votent, ce sont eux qui décident. Il y a encore un certain nombre de choses et de prérogatives et d'obligations du droit international qui s'appliquent aux États qu'ils doivent respecter. Donc, dans le cadre de la discussion sur les droits des peuples autochtones, il y a eu beaucoup de discussions sur est-ce qu'on va accorder une autodétermination, dans quel sens, est-ce qu'on va la qualifier. La plupart des États dominants et notamment tous les membres du Conseil de sécurité voulaient possiblement transiger sur une autodétermination interne, c'est-à-dire que les États pourraient concéder aux peuples qui sont sur leur territoire des formes d'autonomie. Les autochtones ont vraiment réfuté en disant l'autodétermination appartient au peuple. Elle n'appartient pas à un État qui peut la concéder. Donc vous n'avez pas la possibilité de la qualifier de cette façon-là. Les États eux-mêmes déterminaient à ce moment-là une autre autodétermination qui était l'autodétermination externe, celle qui va donner lieu à sécession territoriale pour créer des États indépendants. Donc il va y avoir une sécession de quelque chose que l'on connaît à travers la colonisation, les métro, la mère patrie, la métropole va se séparer de ses colonies. Ces colonies vont devenir des États indépendants, et puis l'espace territorial du colonisateur, de la puissance coloniale, va se réduire. Donc, cette autodétermination externe est quelque chose qui fait très très peur aux États, parce qu'ils veulent absolument pas que leur territoire puisse être d'une part entamé d'une quelconque façon, et que par ailleurs leur intégrité politique soit mise en question justement par ces phénomènes de contestation de l'autorité de la métropole et de l'État en question. Donc les autochtones ne demandent pas des États, ils demandent une autodétermination qu'ils veulent définir par eux-mêmes. Et donc à l'échelle du globe, tous les États, toutes les communautés, toutes les sociétés, tous les collectifs autochtones ne sont pas en situation de déterminer aujourd'hui des formes de disons de territorialisation par lesquelles ils pourraient exercer la plénitude de leur disons droit politique, juridique et civil. Et c'est ça qui peut poser un certain nombre de problèmes. Donc il y a à la fois, alors pour compléter le panorama, il existe encore aujourd'hui un comité des 24 aux Nations Unies qui est dédié aux questions de décolonisation. Donc un certain nombre de, je crois qu'il y a maintenant 17 territoires qui sont inscrits encore sur la liste des territoires à décoloniser, et c'est des autochtones. Sont peu nombreux à demander la décolonisation, mais les Kanaks continuent à demander, donc de Nouvelle-Calédonie, continuent à demander la décolonisation, et les peuples polynésiens également. Hawaï, qui est un peuple polynésien appartenant aux États-Unis, demande à être inscrit sur la liste pour demander la décolonisation, mais elle n'a pas réussi à être inscrit. Et la Papouasie occidentale, demande également à être inscrit sur la liste des territoires à décoloniser, mais l'Indonésie, qui est membre du comité pour la décolonisation, refuse son inscription. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très très compliqué. Donc, à partir de là, connaissant la problématique de la détermination territoriale qui permettrait d'exercer des formes d'autonomie, vous avez plusieurs situations. Vous avez des pays dans lesquels il y a des territoires qui ont fait l'objet de réserves à l'intérieur desquelles il y a des gouvernants qui sont reconnus. C'est le cas nord-américain, le cas canadien. Vous avez au Chili des situations de non-reconnaissance territoriale, mais où le peuple autochtone, Mapuche en particulier, continue de faire des revendications territoriales et demande à ce qu'on reconnaisse ses propres autorités à travers ses propres termes et ses propres qualifications plutôt qu'à travers les termes de la loi indigena qui les reconnaît comme des communautés avec un président, un secrétaire général et un trésorier. C'est une forme organique qui ne correspond pas à de nombreux peuples autochtones, cette structure en communauté ou même en organisation de statut ONG, association loi 1901 en France ou sans but lucratif en Belgique, enfin, etc. Donc vous avez ces situations-là. Vous avez des situations, par exemple au Mexique, où vous avez des autonomies qui ont été reconnues, des véritables autonomies. Donc il y a la Zapatiste dont on va parler à l'instant, mais il y a aussi l'autonomie au Michoacán, au Guerrero, avec des formes d'autonomie qui permettent l'exercice de fonctions de police, de fonctions judiciaires, de fonctions de justice, etc. Et puis vous avez des tas de situations qu'il faut examiner au coup par coup, sur lequel j'ai levé le voile à travers cette grande enquête de SOGIP, puisqu'on a travaillé sur 4 continents dans 10 pays avec des anthropologues, des juristes et Sciences Po, sociologues, etc., connaisseurs vraiment des réalités dans lesquelles qu'il s'agissait de décrire. Donc je voudrais juste terminer sur la question des modalités d'autodétermination, donc qui sont pas facile à mettre en œuvre, mais qui a conduit les autochtones, et c'est indiqué à travers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, à demander, exiger et parfois voir respecter la notion de consentement libre, préalable et informé pour toute activité intervenant sur leur territoire et les concernant, les États, les entreprises, etc., doivent les consulter et obtenir leur consentement libre, préalable et informé. Là encore, c'est des tensions, c'est pas facile à mettre en œuvre. Certains pays le réalisent plus que d'autres, notamment parce que certains pays ont ratifié la Convention 169 sur les peuples autochtones et tribaux, et qui a été adoptée en 89 et qui prévoit des lois de consultation, d'obligation de la consultation, voilà. Du coup, ces processus-là d'obtention du consentement viennent en quelque sorte marquer la reconnaissance de ce qu'il existe un peuple qui a quelque chose à dire lorsque on va construire une hydroélectrique, un barrage, voilà. Tout l'enjeu, évidemment, c'est que les États respectent la déclaration, que les entreprises fassent de la consultation en bonne foi, et là, on est dans des, on a beaucoup de difficultés à faire respecter tout cela. Donc, c'est des objets de lutte et il faut pouvoir les poursuivre.